marche du monde.
Je me suis engagé en 1956, après avoir été fait prisonnier. On ne m'a pas vraiment laissé le choix. C'était soit je m'engage au sein de l'armée française, soit je sors et je me fais exécuter. Je me suis donc engagé dans l'armée française à partir de 1956 jusqu'au jour de l'indépendance en 1962.
Toute personne qui était engagée dans l'armée française était considérée comme harka.
Les voix de Hamid Ben Mansour et Majid Haribi, ils sont harkis et vivent en Algérie depuis l'indépendance. Leur témoignage est inédit et fait tomber le dernier tabou selon lequel les harkis auraient été soit massacrés par les Algériens, soit sauvés par la France en 1962. Pour la première fois, vous allez entendre les témoignages de ces harkis restés en Algérie où nous les avons rencontrés suite à l'enquête historique de notre invité Pierre Dôme. Il est le premier à avoir retranscrit la parole des harkis restés en Algérie dans son livre Le Dernier Tabou, paru aux éditions Actes Sud.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour Pierre Dôme.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous êtes un pionnier, puisqu'au fond vous êtes le premier à être allé rencontrer ces harkis en Algérie. Qui sont-ils et comment l'idée vous est venue ?
Alors, en effet, ce sont des voix, alors des voix dans votre émission, des voix dans mon livre, des voix qu'on n'a jamais entendues, qui ne se sont jamais exprimées, que personne n'a songé à aller recueillir. Et avec ce livre, finalement, je poursuis ma longue enquête dans le passé colonial de la France et dans les pages qui n'ont pas encore été explorées. Puisque l'idée commune en France, c'est en 1962, eh ben, quand on était harki, quand on avait travaillé avec la France, quand on avait été du côté de l'armée française, soit on avait réussi à sauver sa peau, on était parti en France, soit si on était resté, on s'était automatiquement fait massacrer. Or, il y a 3-4 ans, en discutant avec une de mes très bonnes amies, Fatima Besnassi-Lankou, qui est à la fois fille de harki et aussi qui a entrepris des recherches très intéressantes sur les harkis, Fatima me dit « Pierre, si tu allais rencontrer des harkis restés en Algérie ?» J'ai écarquillé les yeux parce que, comme un peu tout le monde en France, j'étais sûr que tous les harkis avaient été tués en 62.
Pierre Dôme, définissons ce mot de harki. Parce qu'on a tous entendu parler des harkis, on comprend tous qu'ils ont travaillé donc avec l'armée française, mais concrètement, quel est le statut du harki ? Qui sont-ils ? C'est le général de Gaulle qui invente cette fonction supplétive à l'armée française.
En effet, il faut savoir de quoi on parle. Donc, les harkis étaient à l'origine une des 5 catégories de ces Algériens, on les appelait les musulmans à l'époque, qui ont servi comme auxiliaires, on dit aussi supplétifs, de l'armée française. Donc, ce sont des hommes algériens qui n'ont jamais eu le statut réel de militaires, ils étaient des civils qui servaient en auxiliaire. Bon, mais il y a eu 5 catégories, donc harki, mais aussi morazni, garde mobile, autodéfense, etc. Ce personnel civil algérien a très vite été considéré de façon générale comme harki, parce que les harki étaient, à la fin de la guerre, les plus nombreux. Cependant, en Algérie, le mot harki a très vite désigné non plus seulement les civils qui ont servi comme supplétifs de l'armée française, mais de façon générale tous les hommes algériens qui, à un moment ou à un autre du conflit, des 7 années et demie de la guerre de libération, se sont retrouvés du côté de l'armée française. Et donc, à ces supplétifs, il faut ajouter aussi tous les Algériens qui se sont véritablement engagés dans l'armée française, qui ont été des soldats. Et là, il y a deux sous-catégories. Il y a les engagés, les militaires professionnels. Toutes les armées coloniales ont toujours favorisé l'intégration d'éléments des peuples colonisés dans leur armée. Et aussi, et ça, ça a été un peu une surprise pour moi au cours de mon enquête, ce sont les appelés. Puisque finalement, l'Algérie, on le sait, à cette époque, c'était la France. Donc le service militaire y était obligatoire pour les 10 millions d'habitants des trois départements français d'Algérie. Et donc tout au long de la guerre d'Algérie, les jeunes Algériens, les jeunes musulmans, ont reçu, comme en France, la convocation pour faire leur service militaire. Il y a eu donc parmi tous les appelés de la guerre d'Algérie, tout un groupe d'Algériens qui ont fait leur service militaire finalement dans l'armée, entre guillemets, ennemie. Il y a ensuite un troisième grand groupe, ce sont les notables algériens qui ont eu des positions pro-françaises très claires pendant la guerre. Et donc finalement, ces trois catégories, les supplétifs, les militaires et les notables, sont dans mon livre, rassemblés sous le terme de harki au sens large.
Ce que vous dites en Algérie, finalement, être harki, savoir travailler pour la France.
Absolument, absolument. Puisque l'immense majorité de ces hommes ne se sont pas engagés du côté de la France par amour du drapeau français, comme on essaye de nous le faire croire depuis 50 ans en France. Pas du tout. Ces hommes-là ont, à un moment de leur vie, décidé d'aller travailler pour l'armée française, principalement pour gagner un salaire qui leur permettait de faire survivre leur famille.
Et lorsque vous additionnez ces trois catégories, vous arrivez au chiffre de 450 000 Algériens considérés comme harkis, car ils ont travaillé du côté des Français pendant la guerre. Et vous arrivez même à 1,5 million, 2 millions, en ajoutant leurs femmes et leurs enfants sur une population de 9 millions. C'est vraiment beaucoup, vous contredisez sérieusement l'histoire officielle algérienne, Pierre Dôme.
Alors, en Algérie, il y a eu de nombreuses réactions sur mon livre et beaucoup de réactions se sont portées sur ce chiffre-là, puisque ce chiffre détruit une image très figée dans l'histoire officielle algérienne, qui est de dire que en 1954... le peuple algérien s'est soulevé en masse contre l'affreux colonisateur français. Or là, je montre, à la suite de travaux d'historiens sur lesquels je m'appuie, que pas du tout, puisque je fais un travail aussi pour essayer d'estimer le nombre d'Algériens qui se sont vraiment retrouvés du côté du FLN. C'est à peu près la même quantité, 1,5 2 millions sur les 9 millions, et donc finalement, il y a une masse plus importante, environ 5 millions d'Algériens qui finalement étaient neutres dans cette histoire.
Et pour entendre la voix des harkis, nous partons en Algérie, dans la région de Sidi Bel Abbès, à une centaine de kilomètres d'Oran. À 82 ans, Hamid Ben Mansour nous reçoit dans sa maison, située aux abords du village de Hassi El Abd. Issu d'une famille de paysans pauvres, où il était le septième de 10 enfants, il est devenu harki juste après son mariage en 56. Car pour Hamid Ben Mansour, travailler chez les Français, c'était une question de survie.
Oui, dans ma jeunesse, j'ai travaillé chez les colons.
De 18 ans jusqu'à 24 ans. Je travaille partout.
De 18 ans à 24 ans. J'ai travaillé à différents postes. Mais généralement, je travaillais dans tout ce qui était agriculture, récolte de blé, moisson, tout ça. J'ai travaillé chez le colon jusqu'en 56, où j'ai été fait prisonnier par l'armée.
Alors, 56?
Je me suis engagé en 56, après avoir été fait prisonnier. On m'a pas vraiment laissé le choix. C'était soit je m'engage au sein de l'armée française, soit je sors et je me fais exécuter. Je me suis donc engagé dans l'armée française à partir de 56 jusqu'au jour de l'indépendance en 62.
J'étais donc engagé au sein de l'armée française contre la guerre d'Algérie. Nous combattions les combattants algériens et les Félagas. J'ai fait partie de l'armée française à différents postes. J'y ai travaillé en tant que force locale avec la gendarmerie jusqu'au jour de l'indépendance.
Deuxième classe, nommé Cabra.
Au sein de l'armée française, j'étais deuxième classe, nommé caporal. Notre quotidien n'était pas forcément facile. Nous devions faire des ratissages, passer des nuits en montagne, deux, trois nuits consécutives. Et ce n'était pas des nuits calmes, c'était des nuits à faire le guet, à guetter les félagas. Les accrochages avaient généralement lieu sur les coups de minuit. Je me rappelle d'un soir où j'ai tué deux félagas. J'ai eu une médaille et des citations pour ça. C'était en 58.
Après avoir été supplétif de l'armée française, Hamid Ben Mansour est affecté à la gendarmerie nationale au moment du cessez-le-feu en 62. Il intègre la force locale et doit éviter les conflits entre les Algériens et les pieds noirs qu'il voit partir avec envie.
Le cessez-le-feu de 62. Je me rappelle du discours de Gaulle sur l'Algérie algérienne, sur l'Algérie française. Je me rappelle de ce jour. Rien de particulier. Nous étions dans notre caserne à Discar, dans une commune pas loin de Belle Abbesse. J'ai voulu partir avec la France à ce moment-là. On nous demandait une somme d'argent moyennant une carte pour pouvoir partir. Mais j'ai eu un conflit ici avec ma femme et cela m'a empêché de partir. Elle était contre le fait de partir avec la France. Je voulais partir car ici on ne nous accorde rien. On est considéré comme harki. Jusqu'à maintenant, on nous le rappelle encore, nous n'avons jamais bénéficié d'aucune aide. Et ça n'a jamais été dans les prévisions de l'État d'accorder des aides à un harki. À l'été 62, mes compagnons d'armes étaient partis vers la France. C'était eux, mon environnement. Les gens à Belle Abbesse, je ne les connaissais pas, je n'avais aucune relation avec eux. Les seules relations que j'ai gardées, c'est celles que j'entretiens avec ma famille, mes frères et mes sœurs.
Hamid Ben Mansour reste en Algérie en 62. Hamid Ben Mansour est un harki, il a travaillé pour les Français et il doit rendre des comptes.
Nous étions sortis de l'armée en 62. La France était partie et la guerre n'existait plus.
Il n'y a pas de la guerre.
J'ai été fait prisonnier juste après. J'ai été frappé, violenté. J'ai eu un tympan perforé. Mais j'ai été relâché une semaine après.
Pourquoi ?
C'était tout simple. J'ai été fait prisonnier parce que j'ai fait partie de l'armée française. Ils m'ont interrogé pourquoi avoir travaillé avec les Français. Je m'en suis quand même pas mal tiré. Il y en a qui ont été tués. Je trouve que je m'en suis sorti à bon compte. En 57, je m'étais engagé avec la France. Je n'avais pas vraiment le choix. C'était soit m'engager, soit me faire exécuter. Je me suis tenu à carreau, engagé par l'armée française jusqu'en 62. À partir de 62, la France est partie.
Chômage.
Je suis resté ici, au chômage. C'est à ce moment-là que la précarité a commencé. J'ai eu beaucoup de difficultés qui durent jusqu'à maintenant. Ayant travaillé pour l'armée française, je ne peux bénéficier ni d'un habitat, ni d'aucune aide de l'État. À cause de l'État algérien et avec mon statut, je ne peux bénéficier de rien. Ceux qui ne sont pas partis, comme moi, vers la France, ont commis une erreur et le regrettent comme moi. J'ai eu l'occasion d'aller en France, en tant que touriste. J'ai vu mes anciens compagnons d'armes. J'ai vu leur situation, une maison, une voiture, une vie stable. J'aurais dû faire la même chose.
Le jour de l'indépendance, le 5 juillet 62, Hamid Ben Mansour reste chez lui. Une fois les gendarmes français partis, ce sont les soldats de l'armée de libération nationale qui sont arrivés. Ils raflent tous les harkis du village.
Ce jour-là, j'étais caché chez moi à Bel Abbès. C'était difficile. On était répertoriés par le Front de Libération comme étant des gens travaillant pour l'armée française. On m'a sorti de chez moi, Bel Abbès. On m'a ramené ici à Sidi Daoud avec d'autres. Plein n'ont pas survécu. On nous a rassemblés ici, sur une place de marché, pas loin du poste de gendarmerie. Une place entourée de grillages. Nous n'étions pas moins d'un millier de personnes. Des gens ont été tabassés à mort. D'autres ont été tabassés mais ont survécu. Certains ont eu leurs cousins qui sont intervenus pour eux, car ils étaient dans l'armée de libération. Beaucoup sont morts. Mais moi, j'ai une longue vie. À ce moment-là, je ne pensais à rien. J'allais soit survivre, soit mourir. Un Espagnol qui était là-bas, M. Escando, ancien forgeron, m'a sauvé. Il a dit que je n'étais pas impliqué dans tout ça, et sa parole m'a sauvé. Par la suite, après ma libération, je suis allé à Bel Abbès. Je n'avais plus les moyens de partir en France, ni les papiers nécessaires.
Voilà.
Donc j'ai continué ma vie à Bel Abbès. Jusqu'à maintenant, si j'ai la possibilité d'y aller, j'irai en France. Du moment que j'arrive à accéder à un logement là-bas. Avec ma retraite d'ancien combattant, qui est de 540 euros, certes, ce n'est pas suffisant pour vivre. Mais c'est un bon début. Je pourrais mendier. Essayer de trouver un travail. Ce serait mieux que de rester ici dans cette situation. Jusqu'à maintenant, si j'avais des facilités pour y aller, je prendrais mes enfants et j'irai vers la France. Mon passeport est déjà prêt.
Les voix des harkis restées en Algérie sont dans La Marche du Monde et dans le livre de notre invité, Pierre Dôme. Une exclusivité à retrouver juste après les infos sur RFI.
La Marche du Monde.
C'était la grande fête, des drapeaux partout, des camions qui klaxonnaient, des houlous, tout le monde était en train de festoyer, de fêter ce jour. Eh bien, moi aussi, bien sûr, j'étais en train de fêter ça, j'étais en train d'applaudir et de chanter Tahia Jazair. Vive l'Algérie. J'ai combattu avec la France, mais une fois la France partie, nous n'avions plus à la supporter et eux n'avaient plus à nous supporter. Les choses sont revenues à la normale.
Suite de la marche du monde consacrée aux harkis en Algérie, des hommes qui ont travaillé avec la France pendant la guerre, des hommes dont on pensait qu'ils avaient été soit massacrés par les Algériens, soit sauvés par les Français en 1962. Nous découvrons 50 ans après que nombre d'entre eux sont restés en Algérie, dans leur village, après l'indépendance, ultime témoin d'un passé colonial encore douloureux de chaque côté de la Méditerranée.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et avant d'écouter notre second témoignage de Harki resté en Algérie, nous retrouvons notre invité Pierre Daume, auteur du livre « Le dernier tabou » où il a été le premier à retranscrire ses paroles de Harki, une longue enquête parue aux éditions Actes Sud. Pierre Daume, si nous essayons de nous remettre dans l'atmosphère de l'époque, dans cette Algérie coloniale depuis plus d'un siècle, ceux qui vont devenir des Harki, des supplétifs de l'armée française, ce sont souvent des paysans analphabètes, extrêmement pauvres. J'imagine que pour eux, l'identité nationale algérienne est une idée, disons, lointaine.
Absolument, absolument. Et ça, l'historien Mohamed Harbi l'a très bien écrit, que le sentiment d'appartenance nationale dans le peuple algérien n'existait pas en 1954. Les Algériens, au fin fond des campagnes et des montagnes, ne disaient pas « je suis algérien » lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes. Ils disaient « je suis de tel village, je suis de tel groupe ». C'est bien souvent lorsque quelques éléments importants d'un clan, d'une famille basculaient soit du côté du FLN, soit du côté de l'armée française, qu'il entraînait tout son groupe. Et d'ailleurs, les psychologues de l'armée française avaient parfaitement conscience de cette structure clanique, en quelque sorte, de la société algérienne, et ils ont développé des stratégies pour compromettre certains chefs de famille, chefs de clan, afin de faire basculer l'ensemble du clan. En même temps, une certaine sagesse de survie paysanne faisait que lorsque tout un groupe, toute une famille basculait par exemple du côté du FLN, le chef du clan prenait soin d'envoyer 3 ou 4 jeunes taper à la porte de la caserne française afin donc de ménager en quelque sorte la chèvre et le chou.
Pierre Daume, en bon journaliste, vous posez bien sûr toutes les questions et sur cette question de la motivation des paysans, vous posez également la question de la responsabilité du FLN dans le harkisme.
Alors, ça peut sembler provocant et en Algérie, c'est une question extrêmement taboue, extrêmement provocante. Cependant, aujourd'hui, nous savons que les moyens de coercition développés par les moudjahidines pouvaient être terribles, allant à assassiner de façon un peu aveugle des chefs de famille. Et donc moi, dans mon enquête, j'ai retrouvé des anciens harkis qui me racontent, moi, en 1956, par exemple, j'avais 16 ans, j'ai vu mon père se faire assassiner sous mes yeux, alors que mon père n'avait rien fait de spécialement grave. Bon, à partir de là, je n'ai eu plus qu'une envie, c'était de venger mon père, parce que on était supposé être une famille de traîtres, alors qu'on n'avait trahi absolument personne. Bon, et donc c'est ce qui fait que ça a motivé, par exemple, ce jeune homme à aller s'engager dans l'armée française.
Pierre Daume, s'ils n'ont pas été tous massacrés en Algérie, s'ils n'ont pas été tous sauvés par la France, que s'est-il passé pour les harkis en 1962? Et vous prenez la peine d'ailleurs de relire les accords d'Évian et vous ne trouvez que quelques lignes sur la question des harkis.
Absolument. Le gouvernement français a donné des directives très précises pour dire on ne veut pas que ces gens-là, qui sont arabes et musulmans, viennent sur le sol de la métropole. Ça, donc, il y a eu une politique d'abandon délibéré. Et le fait est que on connaît les chiffres de ceux qui sont finalement venus en France.
Ce qu'on appelle les rapatriés, les harkis rapatriés.
Absolument. Et ceux-là, sur les 450 000 hommes adultes du départ, il n'y en a que 25 000 qui sont partis en France. Et aujourd'hui, les harkis qu'on connaît en France, ce sont ces 25 000 et leurs enfants. Donc, ils ne représentent qu'une toute petite minorité de l'ensemble des harkis pendant la guerre.
Alors, la France abandonne la grande majorité des harkis, mais du côté algérien, ce tout nouveau gouvernement algérien de l'Algérie indépendante, et notamment la figure présidentielle de Ben Bella, quelle est la position de Ben Bella sur les harkis ?
Pendant de longs mois, Ben Bella laisse faire. Il ne donne pas de directive pour une répression des harkis, mais il laisse le peuple exprimer une espèce de réaction de vengeance spontanée. Ce sont les propres mots de Ben Bella. Donc, que se passe-t-il dans chaque village ? Des rafles de harkis sont organisées et les types passent devant ces espèces de tribunaux populaires. Et il y a des exécutions, puisque on demande à la population, un tel, est-ce qu'il a fait du mal ou non ? Et en gros, si le type s'était contenté, en quelque sorte, de se battre à la loyale contre les moudjahidines, il pouvait espérer sauver sa peau. Par contre, si quelqu'un l'accusait d'avoir vraiment fait du mal à la population algérienne, d'avoir participé, par exemple, au viol, là, on ne cherchait pas à voir si c'était vrai ou pas vrai, le type était exécuté immédiatement. Donc, dès le printemps 62, ensuite l'été 62 et l'automne 62, donc dans cette période-là, il y a eu des milliers et des milliers de harkis qui ont été exécutés. Maintenant, ce que je montre, et c'est, je pense, la grande révélation de mon livre, c'est que l'immense majorité des harkis au sens large, de ces 450 000 hommes, l'immense majorité, est retournée dans son village et, après quelques mois très pénibles, avec éventuellement des violences physiques, de la torture, des emprisonnements, a fini par être libéré et à pouvoir rester vivre en Algérie sans être tué.
Une autre voix de harki reste en Algérie, dans la région d'Oran. C'est celle de Majid Haribi. Son père est assassiné par le FLN en 57. L'année suivante, il est réquisitionné par les autorités militaires françaises. Corvée de patates, ramassage de bois. Le travail est obligatoire et non rémunéré. En 1960, Majid Haribi finit par se décider. Il s'engage dans l'armée française pour gagner son argent. Il a 18 ans et il a toujours travaillé pour les Français.
ما عندناش مصروف ما عندنا لا خدمه لا خدمه لا والو احنا بزاف صغار ما عندنا حتى مشكل وفرنسا كانت تجاجي في الناس هي دخلت انا جاجي
on avait ni travail ni moyen ni rien et la France engagée et payée donc je me suis engagé on travaillait avec eux dans les vignobles les récoltes d'olives C'était le genre de travail qu'on avait commencé à faire dès notre jeunesse. Je n'avais pas travaillé auparavant avec l'armée française. Je me suis engagé le 28 mai. Le 28 mai 1960 au sein de l'armée française.
Troisième compagnie.
Dans le troisième bataillon en tant que deuxième tirailleur. Troisième compagnie.
Troisième compagnie. Écoute, petit, je suis l'armée.
C'était des opérations classiques, nous faisions des rondes, des gardes, parfois des ratissages également. On ne savait pas exactement ce qu'on faisait ou pourquoi on le faisait. On avait des tâches précises à faire et on ne nous demandait pas notre avis et on ne nous posait pas de questions. À ce moment-là, je ne savais pas de quel côté j'étais, si j'étais avec la France pour l'Algérie ou avec la France contre l'Algérie. On ne nous donnait pas suffisamment d'informations pour pouvoir savoir où on pouvait se situer.
J'étais orphelin, je n'avais que ma mère qui était une vieille dame qui vivait seule. Une fois engagé dans l'armée, l'armée française payait ma mère. Ce qui fait qu'il n'y avait pas quelqu'un qui donne son avis ou qui m'influence dans un chemin ou dans l'autre.
Au moment du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, Majid Haribi est toujours militaire dans l'armée française.
J'étais
toujours au sein de l'armée, j'étais à la commune de Tler, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, toujours engagé au sein de l'armée française. J'étais à la caserne, le capitaine est arrivé, il a tiré deux coups de feu, il a dit que c'était le cessez-le-feu. Ensuite, le foyer a été ouvert où il y avait de l'alcool. On a festoyé tous ensemble, chacun clamant le slogan de son pays. Vive l'Algérie pour les Algériens, vive la France pour les Français. Et ça nous a permis de fêter la chose. On a été muté à Berigou, dans une caserne militaire, dans les forces locales. On est resté 3 mois stationné là-bas. On faisait des rondes en camion et en 4x4 dans les environs de Berigou, Sig. Nous assurions la sécurité des pieds noirs et nous avons essayé d'éviter les conflits entre arabes et pieds noirs pendant les 3 mois où nous étions stationnés là-bas. Une fois sortis de l'armée française, on était considérés comme civils et on était travailleurs chez nous. Une fois le conflit armé fini, l'armée française est repartie en France et ne pouvait nous emmener avec nous quand nous étions Algériens. Que le conflit était fini, la France n'était plus en Algérie, qu'il n'y avait aucune raison pour nous emmener avec eux. Les gens qui sont partis vers la France étaient des gens qui étaient mal vus ici au sein de la société. Moi, à la fin du conflit armé et en sortant de l'armée française, je n'avais pas de conflit avec la société ici présente. Les gens qui sont partis, c'était préférable pour eux de partir vers la France.
Majid Haribi se souvient aussi du 5 juillet 1962, le jour de l'indépendance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, lui, le Harki, lui qui a travaillé pour les Français et servi dans l'armée française, il a fêté avec sincérité l'indépendance de l'Algérie.
C'était la grande fête, des drapeaux partout, des camions qui klaxonnaient, des houlous, tout le monde était en train de festoyer, de fêter ce jour. Eh bien, moi aussi, bien sûr, j'étais en train de fêter ça, j'étais en train d'applaudir et de chanter Tahia Jazair, vive l'Algérie. Oui, j'ai combattu avec la France, mais une fois la France partie, nous n'avions plus à la supporter et eux n'avaient plus à nous supporter. Les choses sont revenues à la normale.
La vie reprend au village et Majid Haribi va même se marier avec la fille d'un militant du FLN en décembre 62. La vie rurale reprend son cours.
Majid
Il
n'y avait plus de problème une fois que les gens étaient sortis de l'armée française et que l'Algérie avait pardonné. Les gens avaient réussi à outrepasser ça et à essayer d'avancer sans conflit. En tout cas, c'était comme ça dans notre région, d'un autre côté, je ne saurais vous dire. Les gens étaient plus occupés à chercher du travail, à chercher comment retrouver un rythme de vie normal, qu'à essayer de retirer les vieilles histoires du passé pour régler des comptes qui n'avaient plus d'importance à ce moment-là. Je n'ai pas eu de terre. Je travaillais chez des Algériens qui avaient bénéficié de terrains agricoles. Je travaillais chez eux en tant que fermier. J'étais considéré comme un ancien de l'armée française et je ne pouvais bénéficier de terres agricoles. À ce moment-là, je n'avais pas trop le choix. Du moment que j'arrivais à trouver un travail chez des gens qui avaient bénéficié de terres, je travaillais, j'étais là-bas. De toutes les façons, je n'étais pas le seul dans cette situation. Nous étions tout un groupe qui avait été dans l'armée française et qui se cherchait un travail par la suite. Tout le monde était occupé dans ses affaires à essayer de se trouver un travail et tout ça. Du moment que l'État nous avait pardonné, les gens sont passés outre.
Après 10 ans de labeur agricole, Majid Haribi part tenter sa chance en France.
Le 29 décembre 79, ça fait 8 ans. Ou le 18 février 72.
Je suis parti le 18 février 72 et je suis rentré le 29 décembre 79. Je suis resté là-bas, j'ai travaillé tant que j'ai pu, mais à un moment, il n'y avait plus de pain à gagner pour moi en France et je suis revenu en Algérie. Je suis parti en France pour travailler, certes, mais je suis resté dans mon cœur algérien. J'ai été là-bas, j'ai vécu dans de bonnes conditions. On m'a proposé de m'installer là-bas, les services sociaux sont venus vers moi, m'ont proposé d'avoir un chalet, de donner une situation stable à mes enfants, les éduquer, qu'ils aillent à l'école et tout ça. Mais la décision a été déjà toute prise dans ma tête. Mes enfants ayant commencé à grandir, je leur avais expliqué que j'étais avec la France au temps de la guerre et tout ça, mais eux n'ont jamais eu à souffrir de cela. À présent, je vis, j'essaye de subvenir aux besoins de ma famille, je touche une retraite française, j'ai aussi des revenus ici en Algérie, avec lesquels j'arrive à rattacher les fins de mois.
Les voix de Harki sont dans La Marche du Monde et dans le livre de Pierre Daume, une enquête historique qui nous permet pour la première fois d'entendre les voix de ceux qui sont considérés comme des Harki en Algérie, des familles marquées du sceau de la guerre car elles ont travaillé d'une façon ou d'une autre avec les Français. Pierre Daume, je voudrais revenir sur l'attitude du jeune État algérien à l'égard des Harki. Je pense à tous ceux qui sont exécutés par des tribunaux populaires sous Ben Bella. Ben Bella, qui va d'ailleurs prononcer ce mot de pardon. Il a pardonné les Harki ?
Absolument, absolument. Donc, pour bien comprendre les souffrances, les tortures, les emprisonnements et les assassinats aussi qu'ont subi les Harki, il faut se replacer dans ce contexte de cette première année d'Algérie algérienne qui est marquée par un immense chaos et par l'absence d'État. C'est-à-dire que Ahmed Ben Bella est certes désigné président du Conseil en septembre 1962, mais à ce moment-là, il ne maîtrise absolument pas l'ordre dans son pays. Il mettra de longs mois avant de pouvoir avoir le pays en main, et finalement, ce n'est qu'en juin 63, c'est-à-dire un an après, que Ben Bella, qui possède maintenant vraiment les rênes du pays, une police, une armée, etc., fait ses premières déclarations à propos des Harki, des déclarations qui sont très fermes, où il dit il est interdit à la population de se venger sur les Harki, il est interdit de leur faire du mal. Alors, c'est évidemment un an trop tard, parce qu'il y a eu un an qui sont passés où les harkis ont vécu de terribles souffrances. Mais on peut dire qu'à partir de là, les violences exercées contre les harkis disparaissent très rapidement.
Et puis en 65, Wari Boumediene, qui va prendre le pouvoir, va lui déclarer, vous le citez, « Assez de sang, nous n'allons pas faire de l'Algérie un cimetière ». Alors, on va dire que là, on est dans la position officielle des présidents, des premiers présidents de la République algérienne. Mais parlons, si vous le voulez bien, de l'image des harkis dans la société algérienne. Est-ce que les Algériens, durant ces 50 années, finalement, ont-ils jamais pardonné ?
Non, les Algériens n'ont jamais pardonné. Et aujourd'hui, les anciens harkis et même leurs enfants continuent à vivre de réelles souffrances, qui ne sont pas des souffrances physiques, mais qu'on peut appeler une relégation sociale qui s'applique à eux, ces vieux monsieur que j'ai rencontrés, et même à leurs enfants, et ça semble sans fin. Puisque, en vérité, le drame des harkis qui sont restés en Algérie, c'est que ils ont, en quelque sorte, représenté un espèce d'écran sur lequel la société algérienne a projeté toutes ses rancœurs, toutes ses haines postcoloniales et aussi éventuellement une certaine mauvaise conscience de ne pas avoir massivement adhéré à la guerre de libération.
Alors pour que l'on comprenne bien, cela veut dire que le harki c'est quoi au fond dans la vindicte populaire ? C'est le traître ?
C'est le traître.
C'est l'ennemi de l'intérieur ?
C'est l'ennemi de l'intérieur et c'est celui qu'on déteste en soi, je dirais presque. Et il faut savoir que nous, au micro, là, en France, nous prononçons le mot harki à la française, mais en Algérie, quand on le prononce à l'algérienne, harki, c'est un mot qui a une connotation d'une violence inouïe.
C'est une insulte.
C'est une insulte qu'on entend dans les cours de récréation des lycées. Entre deux gamins, ils se traînent de harki. C'est extrêmement, extrêmement violent.
Bouteflika en personne, le président Bouteflika, le 16 juin 2000, au journal de 20h de France 2, compare les harkis algériens aux collaborateurs français.
Alors ça, c'est un scandale intellectuel complet, puisque il faut absolument arrêter de comparer les harkis aux collabos, ce qu'a longtemps pratiqué la gauche française, qui a appliqué sur la guerre d'Algérie les grilles de lecture propres à l'occupation nazie en France. Or, ces deux choses n'ont strictement rien à voir, et notamment, et c'est là le point essentiel, c'est que autant les collabos français sous l'occupation nazie se sont engagés avec des motivations idéologiques, c'était des fascistes, ils étaient en faveur d'un régime fort, d'un régime fasciste, autant les paysans algériens qui se sont retrouvés du côté de la France, ce n'est pas du tout une démarche idéologique, ils n'étaient pas du tout des patriotes français, ils n'étaient surtout pas du tout pour le maintien de l'Algérie française. Et c'est extrêmement troublant finalement, mais c'est tellement vrai, d'entendre ces vieux monsieur qui m'expliquent qu'ils étaient harkis, mais dans le même discours, ils m'expliquent qu'ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est vrai que aujourd'hui, en France, on est encore tellement conditionné par cette comparaison complètement fallacieuse de la collaboration française qu'on se dit « Ah non, mais c'est contradictoire, être harki et être pour l'indépendance de l'Algérie. » Mais en fait, pas du tout. Ce n'était pas du tout contradictoire.
Pierre Dôme, c'est bien grâce à vous que nous avons pu rencontrer Majid Haribi et Hamid Benmansour. Qu'avez-vous ressenti en écoutant leur voix ?
Alors, c'est évidemment très émouvant et je pense à ces hommes qui vivent depuis 50 ans dans une forme d'exclusion de la société algérienne. Et là, un peu au soir de leur vie, ils ont l'occasion de parler de leurs souffrances et ils ont eu ce courage-là de recevoir chez eux la journaliste de RFI pour parler cette fois-ci dans un micro de leur longue vie, finalement, de victimes de la colonisation française.
Merci, Pierre Daume. J'invite nos auditeurs à découvrir tous les 60 autres témoignages de votre livre « Le dernier tabou » aux éditions Actes Sud. Arki, en Algérie, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité de notre reporter Zahra Chnaoui. Vous savez que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Réagissez sur la page de notre Facebook, podcastez, cette émission c'est la vôtre. Thank you.